Avec des rencontres qui s'annoncent fructueuses, l'émission Réseau Action LX reprend du service les mercredis de 15 à 16 heures en direct et en rediffusion les vendredis à midi, des conversations à bâtons rompus avec des gens emballés et emballants. Défis, projets, activités, enjeux, des propos en toute simplicité qui mettent sur leur X et en action nos organismes et nos communautés.
Conditions actuelles, 14 degrés.
Pas pire audacieuse, c'est Félix 95.5 FM.
J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni au diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et sa finance où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays.
Et toujours sur ce thème de celui qui porte aussi, le nom porte la radio de Saint-Félix, Félix Leclerc, de 1988. La station est née en même temps que lui. Et parti au paradis des musiciens, donc la radio de Saint-Félix et cette chanson toujours d'actualité. Alors, bienvenue à cette émission Logement et droit. Nous sommes déjà le dernier jeudi du mois de mai. Aujourd'hui, tout au cours de dossiers sur l'itinérance, la pauvreté comme telle. Et ma première invitée, bonjour à toi, justement, Andréa Véro.
Oui, bonjour Alain.
Ça va bien?
Ça va bien, merci toi.
Ah oui, alors là aujourd'hui, il n'y a pas de caméra comme telle, la grande média. Et donc, on rappelle que tu es directrice, parce qu'il y a Radio-Canada, à un moment donné, tu as nommé présidente du CA.
Oui, ben je suis directrice de la Coalition Sherbrookeoise pour le travail de rue et aussi présidente du conseil d'administration de la table en itinérance de Sherbrooke.
Ah, OK. Fait que donc, là, aujourd'hui, on reçoit les deux.
Les deux ou la directrice, comme vous voulez.
C'est ça, pas de problème. Ben merci d'être là.
Merci.
Et puis, justement, aujourd'hui, justement, le thème, tous les deux thèmes vont bien se structurer. Il y a une popularité énorme hein, sur l'itinérance. On dirait tout d'un coup là, que c'est comme les séries du Canadien. Là.
Oui, oui, tout à fait. Ben, tu sais, on va dire à l'ère du temps aussi, effectivement, de plus en plus sensibilisé. Malheureusement, je pense que l'itinérance qui est de plus en plus sensibilisée, c'est pas nécessairement parce qu'on excelle, mais parce que le phénomène et les constats, on va dire, nous pètent un peu d'en face ces temps-ci. Fait que c'est ce qui fait que c'est là, puis comment qu'on peut mieux intervenir.
Quand je te vois, ça me fait vieillir, parce qu'il y a quelques années, déjà en 2012,
oui,
tu étais en travail social, la deuxième année de travail social, tu es arrivé à l'association de locataires, puis tout de suite, la première journée, on des fois, la stagiaire arrive, ou le stagiaire, puis bon, on lui donne un petit gâteau, puis on prend le temps, puis en arrivant, on saute dans le char, puis on avait déjà un dossier assez complexe, fait que... Donc, ce stage-là a sûrement été pour toi peut-être une façon d'ouvrir la porte aussi sur ce que tu fais maintenant.
Ben oui, tout à fait. Mon stage en 2012 à l'Association des locataires de Sherbrooke m'a permis d'entrer très, très rapidement dans l'action, de comprendre aussi très rapidement les réalités terrain, les différences entre les réalités et les politiques aussi. Oui. Fait que ça m'a vraiment, vraiment permis d'être très formateur, d'être très humble aussi. On connaît pas tout. C'est pas oui. nous qui vivons la situation. Fait que d'interpeller les gens qui la vivent, là, ça m'a beaucoup aidé là, dans tout mon cheminement, mon parcours.
Et un jour, ben, t'es arrivé, t'as fait différentes choses, mais la coalition, ça fait quand même quelques années, la coalition de travail de rue, que t'es là.
Oui, tout à fait. Je suis arrivée comme travailleuse de rue en 2014 jusqu'en 2000. Oui, tout à fait. Jusqu'en 2019 pour la suite un peu bifurquer vers l'institutionnel, donc aller travailler comme intervenante là au sein du réseau à la protection de la jeunesse et je suis revenue en 2023 là à la direction de la coalition, fait qu'à mes vieilles amours.
T'es à DPJ, t'étais dans le coin de
J'étais à Sherbrooke, oui, à la réception et traitement des signalements, là, entre autres.
Fait que ça fait différent, évidemment, de l'institution au communautaire.
Oui, tout à fait. Puis les gens se disaient, ben voyons, une ancienne travailleuse de rue qui arrive dans le réseau, ben on voit pas ça souvent. Le carré de sable est différent, oui. Mais l'humain devant nous reste quand même un humain avec ses différences. Fait que pour moi, c'est pas si différent, mais complémentaire. On contourne les gens avec humilité, cohérence, authenticité. Fait que pour moi, ces gens-là, on les côtoie partout. Fait que peu importe le chapeau que t'as, c'est de bien le faire.
Puis on voit actuellement, de toute façon, des jeunes qui sont pris en charge par la DPJ, ben tout d'un coup, là, à 18 ans, pouf, prends ta valise, go, fait que finalement, ils se retrouvent dans l'autre département.
Ben oui, tout à fait, on en côtoie. De plus en plus, la protection de la jeunesse tente d'améliorer les pratiques, de ne plus avoir l'image là de l'enfant de 18 ans là aux portes sur le trottoir avec ses sacs. Malheureusement, ces institutions-là très, très encadrées arrivent à 18 ans avec un parcours de vie épouvantable, ce qui fait en sorte qu'il y a un appel à la liberté aussi. Et effectivement, on en côtoie là des jeunes là qui ont eu le parcours institutionnalisé qu'on nomme là et qui se retrouvent malheureusement à la rue ou dans une très, très grande précarité, là, tout à fait.
Et justement, dernièrement, on s'est croisé au Baobab, qui est un peu un endroit vraiment comme café de quartier. Il y a des spectacles qui se donnent aussi, mais il y a beaucoup de rencontres communautaires. Et ça t'a permis de justement donner aux personnes, puis j'étais là, sur justement côtoyer l'itinérance, parce que c'est de plus en plus difficile. Bon, regarde ce matin encore là sur la 4e avenue. Je sais pas si tu as vu ça.
Un petit peu, oui.
Et ça. Fait que bon, là, évidemment, ça veut pas. De toute façon, moi, j'ai eu des voisins qui étaient pas en itinérant puis qui faisaient du bruit toute la nuit. Fait que, tu sais, c'est pas propre à quelqu'un. Mais souvent, il y a comme, hein, c'est pas facile, là, côtoyer. Il faudrait qu'il soit ailleurs qu'à côté de chez nous.
Ben oui, tout à fait. C'est sûr que le discours du pas dans ma cour existe encore malgré
le logement social, entre autres.
Ben tout à fait. Bon. Malgré les belles intentions, la bienveillance, on la comprend, on est sensibilisé, mais quand ça arrive dans notre quartier, c'est toujours plus difficile dans l'accessibilité là et l'acceptabilité aussi sociale. Fait qu'effectivement, côtoyer l'itinérance. Moi, en 2024, à la coalition, notre téléphone sonnait de plus en plus. Okay. En se disant, les commerçants, les propriétaires d'immeubles aussi, les citoyens, étaient comme, ben on la côtoie, on veut prendre part à cette réalité-là, on veut faire notre part aussi, mais on ne sait pas comment. Les comportements de personnes en situation d'itinérance ou d'errance, peu importe aussi, peuvent être très perturbants et très confrontants aussi dans notre sentiment d'impuissance. Fait que quand mon téléphone sonnait beaucoup, je me suis dit, ben il y a peut-être un besoin là d'aller sensibiliser puis d'aller outiller les personnes aussi à comment qu'on peut, comme individu aussi, faire notre part dans le respect. C'est beaucoup ça aussi, puis dans la dignité de l'autre, là.
Puis effectivement, donc, tu disais que tu es arrivé à la coalition en
2014.
Alors, 12 ans plus tard, c'est parce que les gens voulaient te parler que ça a augmenté, le nombre d'itinérants et d'itinérantes. Ils sont pas venus de ça en face, là. Mais il reste que l'augmentation est assez grande comme telle.
Ben oui, tout à fait. Elle a augmenté. Puis je me posais la question il y a quelques mois en me disant, mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là aujourd'hui dérangent dans l'espace public? Parce que nous, on les connaissait depuis des années aussi.
C'est ça.
Fait qu'on se dit, ben oui, on les connaissait, ils étaient dérangeants, où il y avait les mêmes problématiques, mais là, ça se détériore de plus en plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils occupent de plus en plus l'espace public parce que c'est de plus en plus de difficultés à les relocaliser, à les loger? Fait que, tu sais, je donne des fois l'exemple aussi d'au cours des dernières années, le parc locatif aussi à Sherbrooke, c'était plusieurs petits propriétaires avec quelques bâtisses. Et là, maintenant, c'est beaucoup de grandes gestions immobilières aussi qui ont de plus en plus beaucoup d'appartements. Donc, ce qui fait que, t'es plus barré de 2-3 blocs, mais t'es barré de 300 blocs, 300 portes.
C'est ça.
Ce qui fait que c'est très... Et le coût de la vie qui a augmente, là, c'est épouvantable.
Puis là, évidemment, quand on parle de la crise du logement, c'est pas juste quand on parle de la campagne électorale. Là, de toute façon, tu l'as vu, de tes yeux vus pendant tes mois à l'association locataire, des gens qui venaient plus capables de payer. Puis bon, fait que donc, il y en a de plus en plus capables de payer parce que depuis ton stage à l'assaut, le loyer a augmenté, c'est pas à cause de toi. Là. Mais tu sais, il reste que veux pas, là. C'est assez épouvantable.
Ben oui, les loyers augmentent. Les chèques d'aide sociale ne suivent pas ce coût de la vie-là. Puis là, je sais que vous allez avoir aussi une autre invitée qui va pouvoir plus vous en parler. Mais tout à fait. Et fait que les coûts de la vie augmentent. C'est de plus en plus difficile aussi à se nourrir. Fait qu'il y a des nouveaux visages aussi. Tu sais, moi, j'ai des gens qui ont pu vivre 15, 20 ans, 25 ans dans le même logement et que du jour au lendemain, se retrouvent à la rue. Et ce n'étaient pas des personnes qui, on croyait, qui allaient faire partie des statistiques dans les prochaines années. Mais malheureusement, ils se retrouvent pignon sur rue, là.
C'est ça. Fait que c'est ça. Puis les personnes âgées, les femmes aussi, l'augmentation, l'itinérance chez les femmes aussi a augmenté énormément.
Ben oui, tout à fait. Ce qui a augmenté chez les femmes aussi, c'est au niveau de l'itinérance visible. Oui. Elle reste parfois cachée un peu, mais au niveau de l'itinérance visible chez les femmes, on le remarque de plus en plus et ça s'en vient avec tout aussi cette complexité-là aussi, cette sécurité-là en étant une femme dans la rue. On peut comprendre aussi le sentiment de sécurité et le risque aussi là, pour sa sécurité.
Parce que souvent, il y a des femmes qui cohabitaient, avaient un coin de divan avec des hommes violents.
Ben oui, puis tu sais, des fois...
Pour des faveurs sexuelles.
Ben oui, c'est des stratégies, des non-choix qu'on va appeler, t'sais, dans lesquels est le moins pire des choix, où pour moi, c'est ça. Les personnes se disent, ben au moins, je suis sur un divan, je suis pas dehors ou ces choses-là. Fait que c'est dur que c'est difficile aussi d'aller quantifier, mais il faut jamais perdre de vue que même si on n'est pas capable de le quantifier, il est présent puis il faut le prendre en considération, là.
Et quand on parlait d'itinérance, il y a bien, peut-être même pas au monde, il y a bien des années, quand il y avait une personne itinérante à Sherbrooke, la police lui donnait un billet d'autobus pour Montréal.
Oui, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai entendu. C'est vraiment, ça. Oui.
Puis donc, tu sais, je me dis, l'itinérance était comme ça se passe à Montréal, puis pas ici, mais là, de toute façon, tu travailles sûrement aussi avec d'autres groupes. On pense à Magog, on pense à Granby, Coinsville. Tu sais, c'est quand même là. On n'aurait pas pensé ça il y a 30-40 ans, là.
Non, tout à fait. Fait que, tu sais, on parle d'étalement urbain, parfois en revitalisation, oui. Ces choses-là, mais l'étalement aussi rural de l'itinérance est de plus en plus présente. Et les données nominatives là, préliminaires là, sur le dénombrement le démontrent aussi, l'indiquent. Les personnes qui sont le plus touchées dans l'augmentation, ce sont les régions éloignées. On parle du Haut-Saint-François ici,
ben oui,
dans notre région.
On n'aurait pas pensé à ça, là.
Ben non, tout à fait. Puis c'est souvent des communautés très tissées, serrées aussi, des communautés, tout le monde se connaît aussi. Fait qu'il y a une pression de plus dans la dignité, dans la honte, parfois, que les personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance dans ces communautés-là. C'est ton voisin, c'est le frère de quelqu'un. Fait que ça existe. Et malheureusement, les sommes d'argent de nos gouvernements vont avec les nombres. Fait que ce qu'on remarque aussi, c'est que ça a augmenté de plus en plus dans les régions plus rurales, mais parce que l'argent n'a pas suivi, parce qu'on était là, ben, il y en a pas. Oui, mais attendez, en prévention, quand on parle de prévention, c'est pour pas se rendre là.
Parce que c'est ça aussi le travail. Souvent, on pense, pas juste attendre que ça arrive.
Non, tout à fait. Il faut travailler en amont aussi. Puis il y en a des stratégies. Fait que parfois, d'écouter les groupes de base, là, en disant, nous, on le voit arriver. Écoutez-nous, on peut pas vous le chiffrer encore, mais il faut faire confiance à cette expertise-là, terrain, là, tout à fait.
Et tu as vu, ben, malheureusement, progresser le nombre, comme dit, même à travers ta jeune carrière, là, t'es encore toute jeune, mais tu sais, il reste que c'est quelque chose. Puis ton équipe, moi, je regarde ce que vous faites, là. L'hiver, c'est pas trop le fun, hein, puis les mêmes l'été, mais l'hiver, d'aller voir où ce que les gens sont, voir comme tel la réalité, le soir, des fois, ça doit être...
C'est tout à fait difficile.
Quand on revient à la maison, là, tu dis...
Ben le sentiment d'insécurité, tout à fait. Puis moi, j'ai une équipe aussi à la coalition qui fait en sorte qu'on a une belle expertise. Tu sais, il y a 20 ans, 15 ans, et il y a certaines travailleuses, travailleuses de rue qui nomment, ben il y a environ un 15-20 ans, on parlait d'errance à Sherbrooke. On ne parlait pas d'itinérance. Et là, on parle de sans domicile fixe. Après ça, on parle, maintenant, d'itinérance chronique aussi. On parle de campement, ce qu'on voyait pas non plus dans avant, là, mais on est durement touché aussi, malheureusement, là, oui.
Effectivement, puis donc, évidemment, ce travail-là qui s'est fait. Et ben, tu ressors d'une couple de belles journées au cégep de Sherbrooke, à l'auditorium. Il y a eu justement un sommet sur l'itinérance. Il a sorti sûrement beaucoup de gens qui ont apporté des éléments là, comme tels.
Ben oui, tout à fait. On a parlé beaucoup du continuum de services de première ligne à ce forum-là en itinérance. Je pense qu'à Sherbrooke, ce qui est intéressant, c'est les services, ils sont là. On est capable de s'adapter, d'être plus flexible aussi, de se concerter. Malheureusement, ce qui est difficile, c'est la sortie de rue, puis c'est les différents types de logements où on peut loger. Tu sais, je parle entre autres à le parc locatif au niveau des maisons de chambre aussi. Tu sais, on a dit, ben, ça répondait à des gens à une population qui, pour qui, eux, étaient intéressés à avoir ça. Fait qu'il faut diversifier toute cette offre-là.
Et ces maisons de chambre-là, moi, quand j'étais à l'association, il y en avait une pas loin de la cathédrale, là, quelques maisons de chambre, puis quand ça a été démoli, il y avait aussi différents endroits, là, la résidence de la cathédrale, tu sais, tout d'un coup, tout ça, là, ça a jeté à terre. Puis il y a quelqu'un que moi, j'avais accompagné, là, la même année, il était chanceux, hein? Deux fois qu'il était mis dehors d'une maison de chambre.
Ben,
ça ne doit pas aider bien, ça, là, pour enrayer l'itinérance quand tu te retrouves là.
Ben non, tout à fait.
Ça c'est un élément là, que tu relèves. Les maisons de chambre qui ont été démolies ben, parce qu'ils étaient en mauvaise condition. Évidemment, les propriétaires qui avaient ça, ils oubliaient de mettre des réparations. Mais il reste que c'est une autre réalité, là, où la personne était accompagnée par un intervenant. Avait pas besoin de se faire à manger, parce qu'il y a des gens qui
étaient là pour le faire, ou qui avaient au moins un toit aussi sur la tête. Fait qu'après ça, ils pouvaient aller à la chaudronnée, à la soupe populaire, ces choses-là. Mais après ça, ils savaient qu'il y avait une sécurité, qu'il y avait une clé qui ouvrait une porte. Malheureusement, effectivement, tu sais, puis des logements, puis on les voit, là, beaucoup, beaucoup de logements vacants de plus en plus, de blocs de plus en plus aussi, où on laisse à l'abandon, tu sais. Fait que la question se pose, c'est comment qu'on peut tenter, des fois, de retirer du marché certains immeubles pour pouvoir, des fois, stabiliser. Je pense que c'est le mot, là, mais stabiliser le marché, là, puis stopper un peu cette inflation-là. Là.
Alors donc, c'est ça que, puis justement, puis souvent, tu rencontres souvent des confrères et consoeurs de d'autres villes qui vivent aussi la réalité, surtout dans les villes touristiques, comme ils disent, là. Tu sais, je pense à Magog et à Granby. Parfois aussi, la cohabitation, là, est plus difficile aussi.
Bien, elle est plus difficile. Puis souvent, notre réflexe, on est comme, bien, on le voit dans la rue, c'est parce qu'il y a peut-être il y a besoin d'un service, il ne connaît pas les services, ces choses-là, mais les gens connaissent les services. Des fois, ils ont envie d'exister dans l'espace public. Fait qu'il faut faire parfois attention aussi à dire, bien, il y a les citoyens et il y a les personnes en situation d'itinérance ou d'errance qui occupent. Mais ils font partie de notre territoire, ils font partie de cette citoyenneté-là aussi. Fait que cette cohabitation-là, elle est difficile. Puis moi, des fois, cette cohabitation-là, j'aime moins ce terme-là, mais on peut parler de coexistence,
ben,
de partage.
Oui, parce que cohabitation, les colocs...
on les choisit, nos colocs.
Généralement, oui. Oui. C'est ça. Et puis aussi, c'est ça, donc, évidemment, puis à ce forum de deux jours, il y a sûrement des constantes qui sont revenues. Comme tel.
Oui, puis c'est vraiment au niveau ben de la concertation puis de la complémentarité des services. À Sherbrooke, on a eu la chance d'avoir ben la table en itinérance de Sherbrooke depuis 2001.
Moi, M. Palota qui est là. Hein?
Oui, qui est coordonnateur aujourd'hui. Fait que depuis 2021, on se concerte sur l'itinérance, même si on parlait un peu plus d'errance. On se jase, on se parle, ce qui fait en sorte que toute cette mobilisation-là, cette concertation-là, collaboration a été instaurée depuis plusieurs années. Fait que là, maintenant, pour faire face à cette crise perpétuelle-là ou à cette augmentation-là, ben, on n'a pas à faire ce bout de chemin-là de concertation. On l'a déjà fait. Fait que comment qu'on peut aller de l'avant maintenant puis dans des toujours dans des solutions plus structurantes, vraiment et pérennes. C'est la, moi, je pense que c'est la clé, là, plus que d'offrir un service de plus. Ah, ben, il y en a plus, fait que c'est un service de plus qu'il faut pas nécessairement.
Puis ce qu'il faut, ben, actuellement, évidemment, là, on a vu les différents maires et mairesse, celle de Sherbrooke, qui faisait un beau duo là, à la télévision, mais c'était fun qu'elle soit là, les maires de Montréal, Québec, partout. Actuellement, il y a une concertation, même Mme Marois, qui a oublié que quand elle était première ministre, qu'elle avait coupé le chèque d'aide sociale de 50$. Puis il y a 50$, il y a. Elle a été là avant 2012. Là. On s'entend que c'est, couper 50$, là, c'était beaucoup. Ben, oubliez ça. Là,
c'est du passé, mémoire de
politicien, c'est toujours embêtant. Mais il reste qu'actuellement, il y a un intérêt. Mais de cet intérêt-là, à un moment donné, il faudrait, je pense, qu'il y ait des actions concrètes. T'es première ministre demain matin, Andrea, OK? Puis, t'as un dossier d'itinérance. Qu'est-ce qu'il faut faire là?
Oh, c'est la grosse question qui tue, hein?
Oui.
Première ministre, demain matin, je prends un temps d'arrêt. Je m'arrête et je tente de construire une vision plus que des actions comme ça. Parfois, on se dit des actions concrètes, mais qui durent pas, puis qui est juste un plasteur. Fait que j'ose vouloir arrêter pour faire une vision, de se rappeler, hein, on va se rappeler, c'était quoi notre vision au Québec pour notre filet social? Oui. Tu sais, on parle d'il y a 40 ans. Pour moi, l'itinérance est le symptôme d'un échec social, de notre filet social. On n'a pas eu nécessairement toute cette... on a eu la vision, mais on n'a pas eu les actions qui ont mené. Fait que pour moi, première ministre, c'est je m'arrête, puis je prends le temps d'écouter et j'ose peut-être parfois laisser, on dit des fois l'opinion populaire aussi, la population générale, elle veut ça. Fait que des fois, je pense que c'est aussi d'aller dire, ben attendez, on va mettre des actions, on verra pas les solutions maintenant, mais on va les voir à long terme. C'est ce qui est difficile à faire quand on veut être réélire aux 4 ans ou ces choses-là.
Exactement.
Parce qu'on veut des actions maintenant. Mais les actions qu'on fait maintenant fait des fois juste pelleter en avant ou cacher le problème. Fait qu'oser une vision quitte à pas être réélire dans 4 ans, mais je sais ce que je ferais.
Ben, je vote pour toi, moi. D'ailleurs, dernièrement, je t'en parle de premier ministre, elle a annoncé, madame, sa façon électoraliste, là, qui aurait 4000 itinéraires. L'autre jour, quand on s'est vu au Baobab, j'étais agacé. Je lui ai dit 4000. Puis, tu commençais à piger des noms.
Oui, tout à fait.
Mais il reste encore là, c'est une mesure électoraliste. Tu sais, c'est quoi, là? Puis, je me dis, ce que toi t'apportes, là. Puis, ce que l'autre jour aussi, il y avait un professeur, justement, qui était au colloque, qui disait aussi de consulter les personnes qui sont là, de leur demander comment ils voient ça, eux autres.
Ben oui, tout à fait. Puis d'aller chiffrer, c'est difficile. On peut pas non plus arriver avec une mesure comptable, avec des résultats. Il va y avoir 4 000 de moins, 50 000 de moins, des choses comme ça. Parce que quand on arrive dans les services sociaux, le qualitatif et le facteur humain, c'est une donnée qu'on doit prendre en compte et qui ne rentre pas dans une case Excel. Fait que moi, des fois, je me dis, est-ce que c'est 4000 de moins ou c'est de s'assurer, là on parle à une travailleuse de rue, mais de s'assurer qu'on détériore pas la situation des gens, parce que c'est ça en ce moment, c'est on en sort 4000, mais il y en a combien qui vont s'ajouter, tu sais, c'est l'expression aussi, le bain est plein.
Ça,
là,
et malheureusement, c'est ça, c'est pas parti, et surtout avec la crise du logement comme tel. Donc, écoute, moi, comme c'est vraiment... un message merveilleux que tu nous donnes, puis je suis content de voir ce que tu fais, ce que t'as sorti de ton stage, que tu t'en allais vraiment vers comme tel le communautaire, puis de ça. Et puis de rappeler justement qu'on est sur un territoire non cédé.
Tout à fait.
Puis justement, parmi les gens qui vivent beaucoup l'itinérance, on trouve les personnes autochtones, personnellement à Montréal et aussi même dans d'autres villes. Puis justement, merci à Sylvie Bergeron, on a trouvé Samiane, qui a été porte-parole justement pour l'itinérance, puis qui parle de cette réalité-là comme telle, et qui va compléter cette première demi-heure. T'es toujours la bienvenue. Et puis, on peut vous rejoindre, il y a sûrement une page Facebook à quelque part où on suit ce qui se passe.
Oui, la page Facebook de la Coalition Sherbrooke pour le travail de rue, le site Internet. Sinon aussi, tu sais, si vous avez envie d'avoir des petites pistes de solutions, il y a toujours le numéro de téléphone là, dans le 819-822-1736.
Et en même temps aussi, apprendre à vivre avec.
Tout à fait. Fait que la formation, elle est là, elle est disponible. Appelez-nous, puis on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire.
Ben, Andréa, merci beaucoup. Puis on va justement demander à Samian de nous parler de cette réalité que lui aussi a vécue et que les gens de son peuple aussi vivent comme dans certaines villes, comme Val-d'Or, comme Montréal.
Tout à fait.
Ben, Sherbrooke, il y en a...
On est moins confronté à cette réalité-là, mais on est tout aussi sensible.
Ben, merci, Andréa.
Merci.
Et en musique, bien sûr, pour la compléter cette première demi-heure.
J'ai vu cet homme étendu sur le trottoir, sachant que derrière ses larmes se cache une histoire. Il cherche à boire, il cherche à manger, sans famille, sans toit sous lequel se ranger. Il revient de loin, il a beaucoup à dire, mais les gens le regardent loin, peur de salir. Pourtant c'est l'un des nôtres et il tend la main. Il a faim et avant tout c'est un être humain. Dieu a un regard sur lui que nous on n'a pas. Il est plus riche qu'on pense, il a ce que l'on n'a pas. Il a de l'amour, même si son cœur est lourd, il pense aux autres avant de crier au secours. Sa vie est un fardeau, il a besoin de sommeil, d'un peu de repos et qu'on lui tende l'oreille. Ce n'est pas l'argent, ne sors pas ton change. Ce qui lui fait mal, c'est notre indifférence. Sac à dos à l'épaule, les hivers sont rudes. Il rêve de repas chauds et non d'un voyage dans le sud. Il est aux premières loges de monde cruel. Quand il cherche du réconfort dans un fond de ruelle, rempli de compassion pour ceux qui vivent comme lui, sans abri, le visage abîmé par la vie. C'est l'enfer, il rêve d'une place au paradis. Il est si près, affecté par la maladie. Partout où il va, on lui ferme la porte. On ignore sa gentillesse, on regarde ce qu'il porte. Il vit au jour le jour, cherchant quoi se nourrir. Il n'a rien à t'offrir à part son sourire. Il a l'air fort, mais si fragile. Il est si vrai, les yeux si vides. Chaque jour la même prière, il crie à l'aide. Il regarde les passants, mais personne ne s'arrête. Mais ses souvenirs s'estompent. Il a des secrets qu'il emportera dans sa tombe. Il doit se battre chaque jour, c'est sa réalité. Il gèle ses émotions pour l'affronter. C'est une vie qu'il n'a pas choisie. Ses mauvais choix ont pourri sa vie. Il s'accroche à l'espoir, il garde confiance. Il donnerait tout pour une seconde chance. Cherchons un abri, cherchons un appui. Sa vie est un cauchemar, les soirs de pluie. Il attend le beau temps et le temps est long. Personne à qui parler, il est seul au monde. Il a un fils qu'il a négligé, mais il a un fils qu'il a retrouvé. Je donnerai tout pour te prendre dans mes bras. Ce texte est pour toi, papa. Thank you.
Il est midi
29 minutes.
Vous connaissez sans doute la phrase qui dit « Toute bonne chose a une fin ». À CFLX 95,5, cette phrase n'existe pas. L'émission Club Country, qui a déjà 34 ans, perdurera dans le temps car elle le vaut bien. Le country est un style de musique qui a évolué depuis toujours. Venez entendre le nouveau et aussi l'ancien. Découvrez des artistes que vous ne connaissez pas. Revisitez ceux qui vous ont fait chanter et danser. Venez entendre du bon country tous les jeudis de 18 à 20 heures en compagnie de Benoît Lessard à l'antenne de CFLX 95,5, la radio communautaire de l'Estrie.
Le rock progressif, c'est de la musique pas pire pantoute. C'est pourquoi Chris Brown vous invite à une session d'écoute chaque mercredi soir de 19h à 22h. Vous pouvez nous retrouver à l'antenne de CFLX 95.5 Estrie et sur le site de cflx.qc.ca pour l'émission Hockey Boomer. Comme pour les albums de Tintin, tous les auditeurs de 9 à 99 ans sont les bienvenus. C'est un rendez-vous maintenant, les mercredis à 19h.
Prêtez l'oreille à notre émission Diapason. Depuis de nombreuses années, je vous propose les dimanches matins en musique classique. Désormais, de 9h à midi, venez vous reposer en appréciant les grandes œuvres des grands compositeurs. Quelles que soient vos occupations, parlez-en aussi à vos amis et connaissances qui aiment découvrir ces belles œuvres. Ensemble, découvrons Diapason.
CFLX, en Estrie, c'est une radio pas pire pantoute.
CFLX, 95.5 FM.
Deuxième demi-heure de l'émission, bien sûr, logement et droit. Et on reste, bien sûr, dans tout ce qui est autour de l'itinérance, la pauvreté, des sujets qui, en campagne électorale, reviennent toujours. Mais dans la vraie vie, à tous les ans, à tous les jours, il y en a. Et pour la deuxième demi-heure, avec moi, Geneviève Bouchard. Bonjour, Geneviève.
Bonjour.
Alors, sortir ton grand titre, coordonnatrice de l'Action Plus Estrie.
Exact. Oui.
Alors, c'est pas le même salaire que gouverneur général.
Non, pas du tout.
Puis justement, un peu comme la question que je posais tout à l'heure à Andrea, un jour ou l'autre, on fait des choix, là, il y a quelques années, de t'orienter vers une profession comme telle. Puis c'est sûr que travailler dans un domaine, moi, comme je disais, association locataire, domaine défense de droit, c'est quelque chose qui est quand même assez exigeant. Comment c'est arrivé, ce choix-là, dans ta vie?
Moi, quand j'ai fait mes études en travail social à l'Université de Sherbrooke, j'avais aucun intérêt d'aller travailler dans le public, dans les CLSC. J'avais même fait un cours en défense des droits, okay. Un cours optionnel, parce que c'était ça. C'était vraiment là où je voulais aller. J'ai toujours été une personne, je peux me rappeler de mon enfance, tu sais, toujours à prendre soin des autres, okay. Tu sais, toujours là pour défendre les amis. Puis je me souviens, pendant mon bac, il y avait des stagiaires qui faisaient leur stage à l'Action Plus, puis chez vous également.
Oh oui.
Puis à l'Association de locataires, puis ça me parlait beaucoup. Puis finalement, je suis sortie de l'université, je suis allée travailler dans certains organismes à Sherbrooke. Et puis par la suite, ben finalement, j'avais décidé complètement de quitter le milieu d'aide sociale, du milieu de social, puis je suis allée travailler pour une entreprise.
OK.
Puis finalement, le président actuel, hein, monsieur Jean-Yves Simard, qui m'appelle, puis il, oui, me dit: "Hey, je pensais à toi pour une job.
Bon.
L'Action Plus de Sherbrooke,
okay,
il cherche une coordonnatrice." Puis ça m'avait tout de suite interpellée, parce que la petite carte d'affaires, c'était écrit on est la voix des sans voix. Puis pour moi, ben c'est tout ça, la défense des droits. On est la voix de ceux qui en ont pas.
Exactement.
Et puis ça fait déjà 11 ans que je suis là, puis c'est vraiment une organisme qui me tient à cœur. La défense des droits, c'est quelque chose de très important pour moi.
Pour quelqu'un qui connaît pas, c'est moins connu que le Canadien, là, l'Action Plus, là. Mais en gros, là, quand on parle de l'Action Plus, maintenant Estrie, parce,
oui,
que vous couvrez l'Estrie, si on résume ça en quelques phrases.
En quelques mots, ben écoute, ça fait plus de 50 ans, hein, tout comme l'Association de locataires, qu'on existe. L'objectif, c'est vraiment, on est un organisme en défense des droits individuels et collectifs de l'aide sociale. C'est vraiment notre majeur, nous, c'est l'aide sociale. Alors, on accompagne les gens dans leurs demandes. Lorsqu'ils ont des litiges avec l'aide sociale, ils font appel à nous, puis nous, on les représente là auprès des demandeurs de revision, par exemple, on les accompagne. Également, au niveau collectif, ben ça, c'est très important pour nous. Lorsqu'il y a des enjeux qu'on dit collectifs, ben on intervient également. On a eu plusieurs dossiers qui ont été soulevés dans les médias, et puis ça a créé des jurisprudences, puis on en est fiers, parce que dorénavant, ben lorsqu'il y a des gens qui sont bafoués dans leurs droits en aide sociale, ben souvent les partenaires nous invitent à intervenir avec eux. Puis c'est bien.
Puis justement, c'est face à la bureaucratie, et justement dernièrement, le dernier épisode de enquête, justement, la première demi-heure, c'était sur la FIFA, qui est une autre affaire aussi assez épouvantable, là. Mais la deuxième demi-heure, justement, un des intervenants que j'ai côtoyé souvent aussi, David Bouchard.
Oui.
Aucune parenté, non?
Non, pas du tout.
Mais confronté à la maudite bureaucratie, on va le dire de même. Hein?
Vraiment.
Et ça, ça n'est un élément fatigant pour des intervenants qui...
On est dans un contexte d'impuissance, puis à un moment donné, ben c'est ça brûle, ça devient difficile pour les intervenants quand on est dans un contexte justement d'accompagnement auprès de la bureaucratie. Puis dans le reportage d'enquête, ben on amène à la lumière en fait qu'aujourd'hui, des gens qui connaissent pas les organismes en défense des droits, puis sont tout seuls chez eux avec des faits qu'ils reçoivent constamment des lettres du ministère à minuit 01, minuit 03, puis minuit 04 pour nous dire qu'il y a trois nouvelles décisions. Par la suite, des pertes de documents. C'est épouvantable pour des gens qui sont déjà en situation de précarité énorme.
Déjà.
On parlait plus tôt dans l'émission, tu sais, les gens en situation d'itinérance, les gens en situation de logement. Ben nous, on voit ça de nos propres yeux. Moi, j'ai jamais vu autant de gens en situation d'itinérance en ce moment, dans un contexte où il y avait un appartement, puis étant donné qu'ils n'ont plus les moyens parce qu'ils attendent le fameux chèque, puis les propriétaires, ben sont pas toujours en moyen d'attendre, surtout avec la bureaucratie. Aujourd'hui, ça peut prendre jusqu'à un mois avant d'avoir une aide sociale.
L'assurance-emploi est la même chose.
Là, exact.
Puis aussi, il y a les fameuses rénovictions. C'est plein de gens qui ont été évincés de logements pas trop cher au centre-ville, pour être remplacé, comme par hasard, par de beaux logements de luxe. Et ces gens-là, ben leur chèque n'a pas augmenté, là.
Pas du tout. Puis c'était vraiment ça, notre enjeu. Tu sais, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on amène ça à la lumière. Il faut qu'on amène les personnes qui utilisent nos services, qui ont bien voulu participer à cette enquête, parce que c'est quelque chose aussi de se révéler. La honte est vraiment forte là, quand on se retrouve sur l'aide sociale. On veut pas en parler. On reste ça très, très secret. Puis dans ce reportage-là, ben on fait le constat que présentement, c'est ça, les gens qui font des demandes d'aide sociale, ben faut vraiment d'être accompagné par un organisme comme tel que l'Action Plus de l'Estrie. Ben des fois, ça les aide énormément parce que sinon, ils sont livrés à eux-mêmes. Puis ils font quoi? Ben, ils se découragent, comme ce qu'on entend beaucoup. Non, c'est bien trop compliqué. Ils n'arrivent pas des fois à lire la lettre. C'est des réalités qu'on vit là, dans une situation de précarité.
Souvent, les fonctionnaires vont dire, ah, c'est un formulaire facile à remplir. Oui, pour toi. Mais moi, je l'ai rempli pour l'office municipal pour demander un logement social ou un PSL. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Les pauvres fonctionnaires
c'est pas toujours simple, parce que quand on se retrouve dans cette condition-là, puis c'est toujours mon discours, c'est que lorsque les gens font une demande d'aide sociale, souvent, ils ont des contraintes de santé. Ça peut être, tu sais, ça se voit pas toujours dans ta face, fait que juste de remplir un formulaire, j'ai quelqu'un en tête en ce moment, puis pour elle, c'était une montagne.
Oui.
Parce qu'elle est déjà hypothéquée dans sa vie, alors de remplir un formulaire, c'est déjà trop pour elle.
Effectivement, puis dernièrement, justement, il y a eu une soirée, puis plus que ça, comme tel, parce qu'il reste qu'il y a encore, comme pour les personnes itinérantes, les personnes à l'aide sociale, les gens encore, puis je l'entends même des fois dans des gens que je connais bien, là, qui disent « Ah, les baisses! »
Oui.
Alors, tu sais, comme si Puis il y a Catherine Dorion qui avait écrit que les plus grands BS qui coûtaient le plus cher, c'était les gens qui ne payaient pas d'impôts, qui cachaient leur fortune dans les paradis fiscaux.
Exact. Hein?
Alors, et ça, évidemment, tu l'entends peut-être des fois tu dis que tu travailles à Action Plus, là, tu sais. Puis moi, j'étais à l'association, « Ah, le locataire, il y a un qui m'avait dit, c'est le trouble, c'est tous les autres. » Ben oui, c'est ça. Hein, ça prend bien des coupables. Mais au lieu que ce soit le gouvernement qui soit, là. Mais il reste que ce documentaire-là, moi, je l'ai vu, puis... Comment ça s'est préparé, tout ça? Il y a eu un travail, évidemment, là-dedans, énorme, là, comme ça.
Enquête, oui, ça a été tout un... Écoute, ça a été sur plusieurs mois là, qu'on a collaboré avec les journalistes. Puis aussi, ben on devait suivre aussi les participants avec les lettres puis tout ça. Fait que oui, ça a été... Puis entre-temps, ben là, c'est pas une cachette parce qu'on le voit dans le reportage, mais, tu sais, il y avait également, tu sais, la détresse puis l'impuissance de mon intervenant dans tout ça aussi. Tu sais, à un moment donné, ben dans le reportage, 9 mois avant, ben il était... Puis après ça, il dit, ben écoutez, moi, j'ai pris une pause. J'ai décidé de carrément arrêter tout ça. Fait que ça, c'est une vérité puis c'est une réalité. On l'a vu avec le communautaire à bout, mais c'est ça, justement. Quand on travaille dans un contexte d'impuissance, dans un contexte de... Ben ça demande vraiment une force, puis ça nous demande aussi de maintenir le lien, puis de croire encore que la défense des droits, ben on est les chiens de garde de la société, puis même puis c'est important qu'on garde tout ça là.
Et il y a pas longtemps, ben justement la journée d'une partie de hockey.
Oui.
Et à la fête des Patriotes, là, il y a, à la maison du cinéma, il y a eu présentation. Ça m'est arrivé. Et ça aussi, il y a eu beaucoup de préparation, Geneviève, là-dessus. Là. Ça, c'est pas fait en criant un oiseau. Là.
Oh non, ça faisait plus de 3 ans qu'on était sur ce projet-là.
Ah, quelque chose, quand même.
Moi, j'avais rencontré Jean-François Vachon puis Jean-Sébastien Dutille dans le contexte du documentaire Le Bien-être. Puis quand on a terminé ce projet-là, on a dit, hey, on part-tu sur un autre projet? Puis entre-temps, ben avec les membres de l'Action Plus, il y a quelqu'un qui avait dit...
Puis les membres, je pense que ça, c'est important... Les membres, il y a une force.
Oui.
Vraiment, c'est depuis des années que les membres, là, qui voyagent chez nous aussi.
Oui, c'est ça. On a un lien, hein, nous, l'Action Plus, puis l'Association de locataires.
Donc, c'est important,
les membres sont importants, exact.
Parce que c'est important de faire un petit aparté là-dessus. Oui. Les membres, là, c'est pas juste d'avoir une permanente puis trois employés, c'est d'avoir des membres.
Voilà.
Puis à partir de ça... Ben, ce projet-là a pu prendre...
Exact, parce qu'on on fait des dîners-causeries parfois, puis à un moment donné, on était en rencontre, puis on disait... Il y a une de mes membres qui dit « Ça serait bien d'entendre des avocats, d'entendre des médecins, d'entendre la population, des gens qui ont déjà été sur l'aide sociale. Oui. » Puis là, je fais « Ben voyons donc, c'était tellement une bonne idée. » Puis suite à ça, on a parlé avec les Jean-Sébastien puis Jean-François, puis on s'est dit « Hey, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Ça m'est arrivé. Fait qu'on est parti avec ça. Puis l'objectif, c'était vraiment d'aller chercher justement des personnalités publiques puis qu'ils puissent faire part de leur témoignage que ça leur est déjà arrivé d'être sur l'aide sociale. Fait que ça a parti comme ça. Puis je remercie vraiment Jean-Sébastien et Jean-François parce qu'ils ont été d'une aide incroyable dans le projet.
Je l'ai reçu dernièrement, puis justement, il se promène avec son micro puis sa boîte là.
Oh, oui.
Mais c'est vraiment aller chercher. Puis ce soir-là justement, elles étaient ces personnes-là présentes, quelques personnes. Puis ce documentaire-là, vraiment là, allait nous chercher.
Je me souviens quand on est allé, la première qui a répondu, c'est Laurence Jalbert, mains dans les airs, puis vraiment dire oui, j'embarque dans votre projet. Fait que lorsqu'on s'est retrouvés chez elle pour faire la capsule, elle était d'une générosité incroyable, d'une grande... C'est une femme vraiment très gentille, vraiment extraordinaire. Par la suite, on a rencontré aussi José Zapata, c'est un comédien qu'on voit dans des séries telles que Léo, puis dans des séries aussi Le Richelieu, hein, le film sur l'exploitation des travailleurs immigrants.
J'étais tout seul dans mon salon, si je comptais le nombre de sacs que j'ai sacrés pendant après le contremaître, là.
Oui.
Il avait mal à une jambe, mais moi, il aurait eu mal à l'autre.
Tout à fait.
Mais ça démontrait quand même, là, une autre réalité, là.
Exact.
Les travailleurs
puis sans oublier Annie Archambault. Annie Archambault, là, ça, c'est une jeune YouTuber, une jeune sur TikTok qui parle vraiment de la situation de l'itinérance. Elle a connu l'aide sociale. Fait que, voyez-vous que dans les trois capsules, l'objectif aussi, c'était d'aller chercher la population générale. Tu sais, il y avait des gens par rapport à, qui connaissaient bien Laurence Jalbert, José Zapata, ben oui. Puis Annie Archambault. Ben, on sait que c'est souvent plus nos jeunes qui la connaissent.
Ben oui.
Puis c'était une rencontre vraiment incroyable. Puis lors de cette soirée-là, ben c'était le lancement de « Ça m'est arrivé », la campagne, et puis ça nous a permis d'avoir les personnes qui ont participé à cette belle campagne de « Ça m'est arrivé », où justement on mentionne le fait que ça peut arriver à tout le monde.
À tout le monde, c'est ça.
C'est ça, l'aide sociale. Fait que quand j'entends des gens qui me disent « Ben non, c'est juste des profiteurs », non, ça peut arriver à tout le monde. Ça m'est déjà arrivé à Geneviève Bouchard, ça m'est déjà arrivé. Je viens d'une famille assez relativement avec des finances, des bonnes finances. Annie Archambault aussi, on avait pas mal le même discours. Elle aussi, elle vient d'une famille qui avait aucun manquement financier dans sa vie.
Ma mère a été sur l'aide sociale.
Votre mère a été, c'est ça.
Que j'ai vu, là, des fois, elle souhaitait des repas, là, puis comme tel, puis c'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, là, cette réalité-là, puis les gens qui viennent pour le logement, puis oui. Le même problème qui revient pour l'itinérance, c'est la crise du logement.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Tu sais, qu'un chèque, là, tout à l'heure, quand Mme Marois braillait pour les itinérants, quand elle était au pouvoir, elle avait coupé le chèque de 50$. Oui. Fait que ça aide pas, hein.
C'est ça.
Il reste ça, le problème, c'est toujours les revenus.
Exact.
Puis le combat, il y a une phrase qui est divisée pour mieux régner quand les gouvernements ont inventé les aptes, pas aptes.
Voilà. Hey,
c'est cute, ça.
Exact.
Pour mettre la guerre puis la
chicane. On chicane entre nous, dire que oui. Toi, t'es apte, toi, t'es pas. Toi, t'as une contrainte de santé, toi, t'en as pas.
Puis moi, hey. Je le mérite parce que, hein, oui. J'entends ça. Tu sais, il reste.
Oui.
Ça, c'est.
Les préjugés sont même entre nous, tu sais, entre les prestataires de sociales.
Et que le gouvernement a créé.
Oui, exactement. Tout à fait. Puis aujourd'hui, ben là, on a un revenu de base qui est extraordinaire. Mais pour quelle raison faut attendre encore 66 mois avant d'avoir notre revenu de base quand t'as déjà une contrainte à l'emploi, t'as une contrainte de santé, tu pourras pas retourner sur le marché du travail. Il y en aura pas de retour, là.
C'est ça. Puis cette campagne-là, ça m'est arrivé, qu'on va continuer, évidemment, sûrement qu'il y a des suites qui vont arriver à ça.
Ben oui, on invite vraiment les gens à aller sur la page Facebook, ça m'est arrivé. On a aussi, on va pas oublier qu'on parle de hockey, on avait Monsieur Steve Bégin, un ancien joueur du Canadien aussi, que lui, sa famille était sur l'aide sociale.
Oui.
Fait qu'il nous a fait, il a été vraiment généreux de nous présenter aussi sa capsule. Puis tu vois, dans cette capsule-là, les gens, ils intervenaient, puis ils disaient, ben non, t'as pas le droit d'être sur l'aide sociale quand t'es un jeune. Attends un peu, monsieur, écoute ce qu'il dit.
Oui.
Il est en train de vous dire qu'il a été sur l'aide sociale quand il était jeune, avec sa famille.
Oui.
Puis lui-ci, il en a vécu des préjugés. Puis il en a vécu des situations dans la pauvreté par rapport à tout ça. Fait qu'il y a une sensibilité quand on a traversé ça, de dire oui, ça peut arriver à tout le monde.
Effectivement, parce que les préjugés, même des fois dans la propre famille, des gens veulent pas ou veulent avoir un logement.
Mm.
Puis bon, c'est quoi ton venu? Oh bon là. C'est ça, tu sais, il reste que c'est. Puis le prix des logements. Donc, évidemment, je présume que vous chômez pas à l'Action Plus.
On chôme pas à l'Action Plus, puis ce qui est pertinent aussi quand on regarde tout ça, c'est que justement, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est toute une bataille, les préjugés par rapport aux assistés oui. sociaux. On a eu un Normand Landry qui était là également, un chercheur, puis quand il nous faisait oui. Quand il nous présentait ses recherches,
moi je l'ai trouvé là, super ce gars-là.
C'était incroyable, mais justement, l'objectif de dire que c'est le top des préjugés au Québec, là, c'est l'aide sociale. C'était comme puis que même dans ses recherches, on démontre que non, même la plupart des gens, c'est vrai qu'ils préféreraient qu'on soit comme aux États-Unis, puis qui aillent nettoyer les chemins puis qui s'occupent de leurs affaires pour payer pour...
Ben non, mais c'est vrai.
Ça n'a pas de sens.
Ben, il y avait ça, à un moment donné, quelqu'un avait sorti, ça arrivait quelquefois dans les campagnes, que, ben là, quand il travaillait, là...
Ouais.
Ben, il travaillait. travailler comment?
C'est ça.
Et c'est ça, mais il reste que il y a du chemin à faire encore.
Ah, tout à fait. Puis quand tu soulèves, tu sais, en ce moment, la crise du logement versus un chèque d'aide sociale, bien, c'est certain qu'avec 845-895, pour une personne seule, par exemple, bien évidemment, aujourd'hui, je veux dire, on n'a pas besoin d'être ministre des Finances pour savoir qu'on y arrivera pas.
De toute façon, il y a de la misère de ce temps-là, ministre des Finances, avec...
Exact. Fait que c'est ça. Fait que non, il n'y a pas de chance. Puis quelqu'un qui a une contrainte de santé à 1014, on est encore aujourd'hui dans un contexte où on est vraiment, on ne réussit pas à avoir un appartement adéquat à Sherbrooke. À Sherbrooke, depuis 2020, ça a explosé.
Oui.
Puis là, on se retrouve... Il y en a plusieurs là, qui maintiennent leur appartement dans des contextes insalubres, avec justement... parce qu'ils ne peuvent pas déménager, parce que s'ils déménagent, bien, ils se retrouvent en situation d'itinérance.
Puis le logement social, évidemment, qui a aussi été scrappé par le présent gouvernement, là, oui. comme tel. Oui. Ça aussi, parce que ça permet à des gens de vivre décemment.
Vraiment.
Puis là, le logement privé... Hein? Fait que c'est pas facile comme tel. Donc, il y a beaucoup Donc, justement, il y a des actions, sûrement. Vous allez vous préparer pour les élections. Il paraît que ça, j'ai entendu parler, là, qu'il y a une élection au Québec.
Oui, oui, il va y avoir une élection en octobre prochain, là. Ouais.
Donc, évidemment, il y a des chances que vous vous approchiez, là, de demandes comme telles. Si t'étais première ministre, j'ai posé la question, là, pour être co-première ministre, toi, puis Andrea, qu'est-ce que tu ferais? Pour changer les choses.
Ben moi, je vais commencer à être ministre de la solidarité sociale.
Et personne ne va s'ennuyer de Mme Rouleau.
exactement. Oui, si je serais première ministre, évidemment qu'il faut que le filet... On se répète, là, j'entends Andréane qui disait tantôt, Andrea, mais c'est sûr que le filet social, c'est tellement important.
C'est ça.
Je sais pas pour quelle raison qu'on mette pas assez d'argent dans le filet social. Si on l'a vu avec le communautaire à bout, ça a été 2 semaines de grève.
C'est ça.
Puis le monde, ils s'en ont rendu compte. Ils ont fait, ben voyons, on peut pas... les organismes communautaires, ils étaient pas présents pour aider la population. Puis c'est ça que je ferais comme première ministre. C'est sûr que je voudrais m'assurer que le financement soit juste et équitable pour le milieu communautaire. Je suis fatiguée, Alain, de me faire dire par ma ministre attitrée à Mme Rouleau, vous faites un beau travail.
Ben oui, arrêtez de dire.
Faites un beau travail, mais s'il vous plaît, contribuez financièrement.
Mais le chèque avec.
Avec le chèque, exactement.
Puis d'ailleurs, tu reviens où c'était l'Agora. Oui. Il y a eu à Québec, je pense que tu étais présent avec des membres de l'Action Plus.
Oui.
Encore là aussi, ça a été aussi déclamé, puis vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose, que ce Québec-là soit un Québec inclusif.
Inclusif, puis, tu sais, dans tout ça, là, on comprend leur travail, puis on comprend le nôtre. À un moment donné, là, à aujourd'hui, il faut arrêter de... faut intervenir, puis il faut que le gouvernement fasse des positions justes envers les organismes communautaires, envers les gens en situation de pauvreté. C'est juste eux, là, dans leur tour d'ivoire en ce moment, qui comprennent pas, là, ce qui se passe, là. Puis, on se rappelle, là, plusieurs années, tu sais, il y avait les naufragés de ville, là, que c'était des personnages, des gens qui avaient eu un chèque d'aide sociale puis ils vivaient avec un mois. Mais moi, je suis constamment en train d'inviter les députés et inviter les ministres à passer une journée dans nos organismes, à passer une journée avec nous, puis à voir de leurs propres yeux c'est quoi qui se passe en ce moment dans le milieu. Alors, le milieu communautaire, ils peuvent être à bout, mais le milieu communautaire, il laissera pas tomber les gens qui aident. Puis je pense que c'est ça qu'on veut démontrer encore une fois, c'est que si on retourne en grève, puis c'est ce qu'on entend, ben vous verrez de vos propres yeux, puis moi, je suis fatiguée d'avoir des tapes dans le dos. Moi, je veux des résolutions, je veux qu'on ait des résolutions qui vont démontrer que le communautaire... Écoute, j'ai des études bachelières. On a des études au même type que ceux qui sont au CLSC, sont au privé, puis sont au public. Je vois pas pourquoi qu'on pourrait pas avoir des salaires adéquats, décents, puis qu'on puisse répondre aux besoins des gens, qu'on parle de situation d'itinérance, qu'on parle de l'aide sociale. Il faut qu'il y ait des changements à ce niveau-là. Ça n'a pas de bon sens.
Ben Geneviève, merci beaucoup. Justement, on va compléter par « Tomber » de Laurent Jolbert, qui fait partie de son premier album qu'elle avait fait, justement, Oui. L'année, puis moi, je l'ai toujours reçu en entrevue pour la musique. C'est une personne authentique comme telle. Puis justement, de voir que c'est, tu sais, une artiste, tu sais.
Oui.
Tu sais, là, bon, avec, puis on sait, moi, je suis dans le milieu de la musique depuis 28 ans, puis je sais que c'est, il y a à part Céline Dion, il y a, puis quelques autres, il n'y a pas beaucoup de millionnaires là-dedans. Là.
Non,
là, c'est ça, puis même avant, il n'y était pas. Fait que donc, de vivre ça. Fait que merci beaucoup. Puis on rappelle bien sûr que l'émission de ce soir va être sur le site Internet, la programmation, de réécouter ces deux merveilleux témoignages de l'Andrea et de toi.
Oui.
Parce que je pense que l'émission Logement et Droit se veut justement la voix des personnes qui sont engagées, puis parfois aussi enragées.
Oui. Merci Alain pour cette ouverture. Puis vraiment, allez voir les sites, comme je vous dis, allez sur Facebook, ça m'est arrivé, pour suivre la campagne.
Oui.
Puis si vous avez quoi que ce soit, vous avez des besoins par rapport à votre aide sociale, n'hésitez pas d'appeler l'Action Plus de l'Estrie, 819-564-4418. Merci,
bien, merci
tout le monde.
Et puis on vous laisse à la programmation de Saint-Félix et on se retrouve bien sûr jeudi prochain, midi, pour une autre émission Logement et Droit.
Noircir les feuilles de mes pensées. Arracher des morceaux de ma vie, comment déchire les pages d'un cahier. Au loin, je les ai laissés partir, je les ai laissés s'envoler. Partir à tous les vents, partir de tous les côtés. Et tous ces inconnus qui les ont rattrapés ne connaissent de moi qu'une infime partie de mon infinité. Et je cherche encore. On peine sa vie à le chercher, on meurt d'envie de retomber, tomber en amour. Pour blanchir toute une vie. Entre le hasard et le choix, y'a pas d'excuse qui se glisse de ta foi, non. De répondre oui, de répondre non, y'a toujours quelqu'un qui pose trop de questions. Tu finiras par comprendre que ta vie est suspendue à ton charme. Ouais. Toi, l'imbécile, tu ris et tu danses. Il y a des jours, tu ne fais rien pour attendre. Oh, c'est pas facile.
Il est midi
58 minutes.
Un vendeur cogne à votre porte ou il vous sollicite dans un kiosque temporaire, méfiez-vous. La loi lui interdit de vous solliciter concernant le chauffage, la climatisation, l'isolation ou la décontamination. Par exemple, il n'a pas le droit de vous vendre une thermopompe. Face à un vendeur itinérant, faites toujours des vérifications avant de vous engager. Visitez le québec.ca/vente-itinérante pour connaître toutes les situations où il faut se méfier. Un message du gouvernement du Québec.
De retour en studio après une saison très relevée, le magazine Art d'œuvre poursuit sa reconnaissance et sa promotion des arts et de la culture à Sherbrooke, en Estrie, au Québec. Des entrevues, des reportages, des clins d'œil, des chroniques et des prestations, de tout pour garnir le menu et la table. Les samedis de 13h à 15h et les mardis en rediffusion de 16h à 18h. Parce qu'on vous aime, qui vient dîner avec moi, avec nous?
Entrez dans l'univers MaTV en participant à votre télévision communautaire. Vous pouvez proposer un projet d'émission reflétant les intérêts de votre région ou devenir bénévole devant et derrière la caméra. Si l'animation, la recherche et les tournages télévisuels vous intéressent, écrivez-nous à infomatv@commercialvideotron.com et visitez le matv.com.